Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Paludisme. Le vaccin introduit en avril dernier est-il efficace? Sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, près d'un million de doses de vaccins contre le paludisme, considérées comme la première cause de mortalité, ont été expédiées en mars 2025 au Mali pour la première fois. En avril dernier, les autorités sanitaires ont administré la première dose de vaccin contre le paludisme. Ainsi, le Mali est devenu le 20e pays en Afrique à introduire le vaccin antipaludique dans son programme de vaccination de routine avec l'appui de l'Alliance des vaccin Gavi. Cette expérimentation a-t-elle été efficace contre la malaria? Comment évolue aujourd'hui la lutte contre le paludisme au Mali? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités, Dr Vincent Sanogo, paludologue, conseiller technique et managérial à la direction du programme national de lutte contre le paludisme, Ibrahima Adja Keïta, conseiller technique à la FENASCOM, Fédération nationale des associations de santé communautaire, et Dr Ousmane Lee, secrétaire à l'organisation et à la communication du collectif pour la promotion de l'éthique et la déontologie des professionnels de santé. À la présentation, je suis Imran Akilomega, invité auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nous allons commencer avec vous, Dr Vincent Sanogo. Comment se présente aujourd'hui la situation du paludisme au Mali?
Ok, merci beaucoup, Monsieur Maïga, pour cette question. Alors, comme vous l'aviez dit, le paludisme constitue encore un problème de santé publique, malheureusement, dans notre pays, parce que c'est la première cause de consultation dans nos établissements de santé. Environ 40% des patients qui consultent nos établissements de santé viennent pour une cause de paludisme. Et malheureusement, quand vous prenez les décès, sur 100 décès, vous aviez environ 30 décès qui sont dus encore au paludisme. Donc, ça reste un problème très sérieux de santé publique dans notre pays. Et ce n'est même pas seulement que dans notre pays, parce que c'est aussi la première cause de morbidité parasitaire dans le monde entier. Les statistiques de l'OMS disent que seulement en 2023, nous avons enregistré plus de 260 millions, environ 263 millions de cas de paludisme dans le monde entier. Et 95% de tous ces cas sont survenus en Afrique subsaharienne. Et environ 600 000 décès sont encore enregistrés chaque année dû au paludisme. Donc ça reste encore un fléau, en tout cas pour la santé mondiale et particulièrement pour la santé de notre population.
Concernant les statistiques nationales, au Mali, en 2024, on a enregistré combien de cas?
Bon, au Mali, en 2024, nous avons enregistré environ 3 800 000 cas de paludisme. Ça, c'est ce que les établissements de santé ont enregistré. Mais ça ne prend pas en compte les populations qui ne fréquentent pas les centres de santé. Donc, ceux qui sont venus au niveau des centres de santé, les hôpitaux et tout, toutes les structures de santé, nous avons enregistré environ 3 800 000 cas. Et sur ces, il y a environ 30% des cas qui sont survenus chez les enfants de moins de 5 ans. Et il y a eu malheureusement plus de 1 600 décès dus à ce fléau dans notre pays en 2024.
Donc on peut dire que la malaria régresse ou ça progresse au Mali?
Bon, on peut dire que, en quelque sorte, c'est stagnant durant ces 5 dernières années. Dans les 10 dernières années, nous avons connu en tout cas des grands progrès. Malheureusement, depuis 2020 maintenant, on assiste à une stagnation des statistiques. Il n'y a plus assez de réduction, en tout cas, de la morbidité ni de la mortalité. Il y a des années où même on assiste à une augmentation du nombre de cas. Voilà, ça peut être souvent dû au changement climatique aussi, qui fait que souvent nous avons des augmentations de cas dans certaines années. Mais il y a des stratégies que nous avons mises en place pour pouvoir contrôler, en tout cas, ces flammes de cas de paludisme dans notre pays.
D'accord. Docteur Lee, pourquoi le paludisme tue au Mali et en Afrique?
Merci bien pour cette question. Je profite pour saluer les téléspectateurs et vous-même de nous inviter sur ce plateau. Le paludisme tue parce que c'est une maladie grave. Et c'est une maladie infectieuse due à un parasite. Et comme je me rappelle bien, mes chers maîtres, feu le professeur Ogo Barandou, disait que ce parasite est extrêmement intelligent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de stratégies sont mises en place pour le contrôler, contrôler la maladie, contrôler le parasite, mais on a quelques difficultés jusqu'à présent. Et c'est ce qui fait que la vaccination est une des pistes. Donc le paludisme tue beaucoup parce que c'est une maladie grave.
Comment les médecins se mobilisent pour faire face à cette situation?
Les médecins se mobilisent en prenant soin des patients qui arrivent. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne pouvons soigner que ceux qui arrivent à nous. Ben, ceux qui n'arrivent pas à nous, c'est assez difficile. Et le problème qui est souvent, ils arrivent en retard. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut peut-être résoudre. Et nous pensons que de plus en plus, la maladie survenant dans la communauté, donc nous devons beaucoup travailler avec les tradithérapeutes. Mmh. Parce que c'est clair, les gens font appel à ces personnes-là quand ils ont des problèmes. Nous ne devons pas les ignorer dans notre système. Nous devons les impliquer. Et pour faire en sorte que quand il y a des cas de paludisme, qu'ils soient référés le plus vite possible pour que nous ne perdons pas ces patients.
En vous entendre, quand vous dites qu'ils arrivent en retard, est-ce à dire que c'est des cas sévères qui arrivent dans les hôpitaux ou des cas simples?
Oui, généralement, si vous voyez que la mortalité est assez élevée dans les hôpitaux, c'est parce que quand ils arrivent, c'est un peu tard. Les statistiques sont claires là-dessus. Si ce n'est pas tard et qu'ils arrivent à temps, on va récupérer, on va pouvoir contrôler la maladie et guérir la personne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on a encore des molécules qui nous permettent de guérir le paludisme. Même s'il y a eu des cas de résistance avec d'autres molécules, mais le protocole que nous avons actuellement marche. Et si on perd les enfants, si on perd quelques femmes enceintes, on ne le souhaite pas. C'est parce que les gens arrivent très souvent en retard pour être pris en charge.
Est-ce que nos hôpitaux disposent des moyens nécessaires pour faire face à cette maladie?
Oui, aujourd'hui, les hôpitaux disposent des moyens nécessaires. Parce que quand vous regardez, je pense que le paludologue va encore parler mieux que moi. Les protocoles thérapeutiques avec l'arsenal thérapeutique que nous avons, c'est disponible. Ce n'est pas non plus très cher. Donc, les hôpitaux ont ces moyens, les centres de santé ont ces moyens. Oui, souvent, il peut y avoir quelques ruptures, on peut le comprendre, parce que ça, c'est inhérent à tout fonctionnement de système humain qui est en place. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a les moyens pour arriver à bout des cas de paludisme sans beaucoup de problèmes. D'accord. Mais, comme on appelle ça, c'est des questions de sensibilisation. Bon, je vois notre ami de la Finance.com sourire. Oui. Peut-être qu'il a d'autres avis. On va l'écouter.
D'accord. Vous venez d'écouter les autres. La communauté est appelée, notamment la mobilisation communautaire. Comment ça se passe d'ailleurs?
Merci à Sidio Tamani pour l'opportunité que vous offrez à la santé communautaire pour s'exprimer autour de cette maladie. Et comme vous le savez, comme l'a dit le prédécesseur, qui constitue aujourd'hui la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et surtout les femmes enceintes. Et la lutte contre cette maladie n'est pas l'apanage seulement des structures médicales ou des médecins. La communauté joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre le paludisme au Mali. À travers des actions de prévention, des actions de sensibilisation et des actions d'information qui sont aujourd'hui essentielles dans la lutte contre le paludisme au Mali. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes sont issues de la communauté. Raison pour laquelle c'est aujourd'hui pour nous, acteurs de la santé communautaire, de prendre à bras de corps la lutte contre cette maladie au Mali. Comme vous le savez, c'est la première cause de fréquentation de nos structures de santé, avec parfois 30% et en période de crise jusqu'à 50%. C'est dire qu'aujourd'hui, la lutte contre cette maladie doit être la priorité de la communauté.
Devons-nous nous interroger sur l'inefficacité des campagnes de sensibilisation dont vous parlez, puisque quand on écoute les statistiques, quand on regarde les statistiques données par le PNLP, on s'interroge sur les campagnes de sensibilisation saisonnières.
Oui. Effectivement, ces campagnes de sensibilisation saisonnière qui débutent souvent en 4 ou 5 passages, au niveau des communautés, nous sensibilisons beaucoup la communauté à accepter d'abord cette stratégie. Elle est efficace. Vous savez, par endroit, il y a beaucoup d'efforts. Dans les statistiques locales d'information sanitaire, nous étions à 38% en 2018, de taux d'incidence. Et aujourd'hui, on avoisine les 18%. Ça, c'est les statistiques OMS de 2018. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans la lutte contre le paludisme au Mali aujourd'hui. Donc, ces actions de sensibilisation, d'information, de détection précoce que la communauté mène, constituent vraiment une étoile par rapport à la lutte contre le paludisme au Mali.
D'accord. Vous avez amorcé un tout petit peu. Quel est l'apport du gouvernement dans la recherche à travers le programme national du paludisme?
Bon, merci bien, M. Maïga. En tout cas, comme le disait tantôt mon aîné, Dr. Lee, aujourd'hui, le gouvernement déploie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de moyens, en tout cas, pour lutter contre ce fléau dans notre pays. Et tous ces moyens, aujourd'hui, qui sont déployés par le gouvernement, en tout cas, sont destinés dans différents domaines de lutte contre le paludisme. Vous aviez aujourd'hui, comme il le disait tantôt, beaucoup de campagnes que nous menons dans la communauté. C'est souvent des campagnes de distribution des moustiquaires, c'est souvent des campagnes de chimio-prévention. Tous ceci sont des moyens de prévention pour mieux lutter. À côté de cela, vous aviez la prise en charge où les intrants pour les moins de 5 ans et les femmes enceintes qui sont les couches les plus vulnérables sont gratuits, la prise en charge. Mais il y a aussi ce volet recherche qui est là parce que toutes les décisions doivent être éclairées par des évidences scientifiques. C'est pour cela qu'il y a aussi une grande part des ressources allouées à la lutte contre le paludisme qui sont éjectées dans la recherche. Et fort heureusement, nous avons l'accompagnement de nos institutions de recherche. Vous aviez le centre MRTC qui est un centre de référence mondial en matière de lutte contre le paludisme. À côté de cela, vous aviez aussi l'Institut de santé publique du Mali qui est une référence aussi en matière de diagnostic du paludisme et puis aussi le laboratoire de biologie moléculaire. Donc tous ceci sont des institutions de recherche qui appartiennent à l'État, qui accompagnent le programme national de lutte contre le paludisme, en tout cas dans la recherche de nouvelles stratégies de lutte afin d'amorcer en tout cas la phase de diminution de ces fléaux et aller vers l'élimination selon les objectifs de développement durable.
Malgré ce que vous venez de dire, on constate notamment la progression de cette maladie, la propagation des moustiques un peu partout dans le pays. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Bon, vous saviez, le paludisme, je pense que mon aîné le disait tantôt, c'est une maladie multifaciès. Le parasite lui-même, il est très difficile à contrôler parce qu'il est transmis par un vecteur. Et tout ceci ont un lien avec le climat, avec la géographie aussi. Ce qui fait que les moustiques qui constituent aujourd'hui le vecteur du paludisme se développent avec l'humidité, avec l'eau, avec aussi le climat tropical. Ce qui fait que pendant la période hivernale, nous avons beaucoup de flaques d'eau qui stagnent. Et ceci constitue des moyens propices pour les moustiques de pouvoir se reproduire. Et quand il y a beaucoup plus de moustiques, la transmission devient intense. Donc c'est pour cela que nous devons beaucoup mettre l'accent sur la sensibilisation. C'est pour cela que j'ai fait un clin d'œil à mon ami de la société civile pour quand même que nous puissions avoir cet engagement communautaire, cet engagement de la société civile afin que, en tout cas, les mesures de prévention, les mesures d'assainissement, d'hygiène d'assainissement qui sont préconisées par les autorités sanitaires puissent être adoptées par la communauté afin de freiner la propagation de la transmission de cette maladie.
D'accord. Docteur Ali, en dehors du paludisme, quelle autre maladie les moustiques transmettent?
Bon, il y a, comment on appelle ça, la dengue, par exemple, qui est transmise par des moustiques, mais pas le même moustique que celui du paludisme. Donc, c'est le moustique tigre, donc, qui est, qu'on appelle ça, en bambara, on appelle ça Real Soso. Donc, il y a aussi la fièvre jaune, qui est aussi transmise par des moustiques. Donc, mais la particularité du paludisme est que l'anophèle pique la nuit ou en début de soirée. Donc, les moustiques qui piquent la journée vont transmettre plutôt la dengue ou la fièvre jaune et autres maladies dont les entomologistes sont les spécialistes. Le paludologue en pourra parler plus que moi, parce que moi, je suis spécialiste en santé publique et santé numérique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la question de l'assainissement est primordiale. Et moi, quand je regarde ce qui se passe souvent dans nos pays, c'est triste. Parce que nos sociétés étaient caractérisées par la propreté. Alors, ce qui est dramatique, c'est de voir que nous nous plaisons maintenant dans des environnements insalubres. Nous nous sommes habitués à ces environnements. D'où il faut vraiment que chacun fasse son examen de conscience. En tant que responsable dans sa communauté, dans sa maison, de faire en sorte que nous soyons propres dans notre environnement. Et si nous sommes propres, on va voir que beaucoup de maladies vont disparaître, pas seulement le paludisme. Et les pays qui ont éliminé beaucoup de maladies, c'est par ces mesures-là qu'ils les ont éliminées, en faisant en sorte que le poids du vecteur soit le plus faible possible, et puis les autres stratégies vont accompagner.
D'accord. Alors, on parlait tout de suite, la communauté, comment, d'ailleurs, le Mali a récemment introduit un vaccin contre le paludisme. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation communautaire autour de ce vaccin-là?
Effectivement, il y a eu une large mobilisation communautaire autour de l'acceptation de ces vaccins par la communauté, à travers des actions de sensibilisation, des actions d'information par rapport à l'efficacité même de ces vaccins, et par rapport à la mobilisation communautaire d'information de la population, à savoir que ce vaccin est un facteur qui va réduire considérablement le taux de mortalité et de morbidité de cette maladie. Donc, il y a eu des activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire, à travers nos leaders religieux, à travers nos agents de santé communautaire, qui ont compris qu'il faut aller vers l'élimination à l'élimination de cette maladie par l'adhésion et l'acceptation de ces vaccins.
Après la première dose du vaccin, quel est le constat que vous avez eu à faire sur le terrain?
Le constat, c'est d'abord la réduction de la fréquentation de nos centres pour cause des palus. Ça, ce constat est réel déjà, nous avons remarqué à travers la diminution des cas de décès au niveau des structures sanitaires.
C'est lié au vaccin ou c'est lié tout simplement au traitement traditionnel comme Lee l'a expliqué dans ses premières interventions?
Oui, on peut dire que c'est lié à l'efficacité du vaccin. C'est vrai, il parle des traditions thérapeutiques. Les autres acteurs de la santé communautaire aussi sont là. Il y a les AEC, il y a les leaders communautaires qui sensibilisent beaucoup par rapport aux résultats du vaccin. Comme il l'a dit, des efforts considérables quand même ont été déployés, ont été mis en place par les communautés par rapport à la sensibilisation, accepter d'abord ces vaccins et autour même de l'efficacité de ces vaccins. Le résultat est là aujourd'hui à travers la baisse de la fréquentation des structures de santé et la baisse également du taux de décès au niveau des structures sanitaires.
D'accord. Ouais. Quel résultat vous obtiendrez de la première expérience d'introduction du vaccin dans le pays?
Ok, merci. Donc, je voudrais d'abord dire que le vaccin, il est là, certes. Il a une efficacité approuvée. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'OMS l'a recommandé aux pays endémiques du paludisme. Mais le vaccin, lui seul, n'est pas suffisant pour prévenir. Il faut une combinaison, il faut un mixage d'interventions afin d'aller vers, en tout cas, la réduction souhaitée. Donc, c'est pour cela... Le vaccin, il doit être accompagné de toutes les autres stratégie de toutes les autres interventions de prévention que nous avons en tout cas mises dans la politique nationale de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous avons ce vaccin. Il est d'abord utilisé chez les enfants de moins de 5 ans. Pour être précis, c'est les enfants de 5 mois à 36 mois. Et donc, l'enfant, il est programmé pour avoir 5 doses pour être protégé. Une seule dose n'est pas suffisante pour pouvoir protéger l'enfant. Il est programmé pour avoir durant 2 à 3 ans 5 doses de vaccin. En ce moment, il est assez protégé jusqu'à ce qu'il ait le temps, selon l'âge, d'acquérir sa propre immunité.
Ceux qui ont reçu leur première dose en avril dernier ont-ils reçu leur deuxième dose?
Oui.
On est toujours à la première dose?
Non, nous avons des données déjà par rapport à cette vaccination. Nous avons une bonne couverture par rapport à la première dose parce que les trois premières, comme je l'ai dit, ça commence à 5 mois et les trois premières doses s'administrent successivement durant les 3 premiers mois. Et après, la quatrième et la cinquième dose, c'est une année de rappel. Mais nous avons une bonne couverture des premières doses. Mais malheureusement, nous avons un écart entre ceux qui ont reçu la première dose et la deuxième dose, ainsi que la troisième dose. C'est pour dire que nous avons des taux de déperdition. Des gens ils viennent pour la première dose et après, il y a une sorte de relâchement qui font qu'ils ne viennent pas pour les autres doses. Alors que si toutes les trois doses ne sont pas administrées à 3 mois d'intervalle, en tout cas, la protection recherchée n'est pas là. Donc, il faut que la population, en tout cas, arrive à comprendre que dès que l'enfant commence, durant les 3 mois successifs, chaque mois, la maman doit amener l'enfant pour qu'il reçoive sa dose.
Alors, quels sont, selon vous, les besoins spécifiques de nos hôpitaux pour faire face à cette maladie, avec notamment l'arrivée de ces vaccins-là?
Alors, pour moi, les besoins spécifiques des hôpitaux pour faire face à cette maladie, c'est encore du personnel. Il faut qu'il y ait du personnel bien formé pour faire la prise en charge. Parce que surtout, nous sommes en période de transmission élevée. Pendant la saison de pluie, la transmission est élevée. Donc, les cas viennent nombreux. Et donc, cela amène une surcharge de travail pour les professionnels de santé qui exercent là. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, oui, il faut que les intrants soient disponibles. Les intrants, ça veut dire les médicaments. Que les médicaments soient disponibles. Et nous savons très bien que le monde, globalement, est en crise actuellement. Et donc, il y a des médicaments que nous ne fabriquons pas. Donc, si nous ne fabriquons pas, ben, ceux qui fabriquent, ils vont se servir.
Le Mali n'a reçu que près d'un million de doses de vaccins, n'est-ce pas? Et ces 1 million de doses suffisent.
La vaccination, la question est par rapport aux hôpitaux. Ouais. Parce que si vous parlez de la vaccination, qu'est-ce que la vaccination va faire? La vaccination va aider les hôpitaux à ce que les cas graves ne se multiplient pas et y arrivent. Donc, en ce moment, si on vaccine très bien, nous, dans les hôpitaux, les gens vont être un peu plus tranquilles. Mais si vous voyez qu'ils ne sont pas encore tranquilles, c'est parce qu'on vient juste de commencer la vaccination. Donc, pour moi, il n'y a pas le recul nécessaire pour dire que la pression va être abaissée tout de suite sur les hôpitaux. Ça, c'est très clair. On voit encore des cas graves qui arrivent dans certains hôpitaux. Donc, pour pouvoir résoudre ça, c'est ça que je vous ai dit, il faut de la ressource humaine qualifiée, il faut qu'il y ait des intrants, et puis il faut que la sensibilisation continue quand les gens voient des cas qui posent problème, d'arriver vite dans les structures de santé pour que la prise en charge soit faite. Donc, or, la vaccination est à un autre niveau qui est différent de la prise en charge. On ne vaccine pas à l'hôpital. On soigne à l'hôpital le problème. On vaccine, qu'on appelle ça, dans la communauté et au niveau des centres de santé. Si on fait de la vaccination à l'hôpital, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le lieu.
D'accord. Oui, vous voulez dire que...
Je voudrais préciser qu'effectivement, pour cette première année, on a 19 districts sanitaires parce que le Mali aussi, nous avons toutes les régions, tous les districts ne sont pas au même niveau de transmission. Vous avez des zones où la transmission est très intense durant toute l'année. Vous avez des zones où c'est seulement 2-3 mois ou 4 mois que la transmission est assez intense. Donc, on a d'abord choisi là où la transmission est très, très élevée pour d'abord introduire le vaccin là-bas parce qu'il n'y a pas encore une très grande disponibilité de ce vaccin. Donc, c'est pour dire qu'il y a environ 1 100 000 enfants qui sont attendus pour cette première phase de vaccination. Et comme je l'ai dit, chaque enfant doit recevoir 5 doses. Donc on s'attend à un peu plus de 5 millions de doses. C'est vrai que la livraison est séquencée, échelonnée, mais pour cette première phase, ce qui est promis au Mali, c'est plus de 5 millions de doses que nous allons recevoir.
Vous avez reçu 1 million, il reste encore 4 millions.
Voilà, donc il y a des livraisons des dates de livraison qui sont échelonnées. Donc, en fonction de la progression, la livraison va se poursuivre.
D'accord. En dehors des campagnes de sensibilisation que vous menez notamment, comment faciliter l'accès des populations aux centres de santé afin que les médecins ne soient pas confrontés notamment à des cas sévères?
Sur ces points, c'est vrai, il y a la distribution des moustiquaires, il y a la sensibilisation de la communauté par rapport à pulvérisation intradomiciaire, psyllienne. Il y a aussi la sensibilisation de la communauté, comme le docteur Lee l'a dit tout de suite, à assainir l'environnement. Voici des actions très importantes dans la lutte contre le paludisme. C'est vrai, il y a les vaccins aujourd'hui, mais les deux se complètent. Et la prévention, c'est des mesures de sensibilisation, c'est des mesures de prévention, c'est des formations de ces agents à aller vers ces vaccins. C'est important. C'est vrai, il y a les vaccins qui sont là aujourd'hui, mais les deux se complètent. Il faut que les autres actions de sensibilisation, notamment la distribution des moustiques. Cette pandémie, aujourd'hui, ça touche beaucoup les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Si aujourd'hui, ces actions-là sont comprises au sein de la communauté, je pense que la combinaison de ces deux facteurs, notamment la vaccination et les mesures préconisées, notamment faire dormir les enfants sous moustiquaire, les femmes enceintes sous moustiquaire, les mesures de prévention, les mesures de sensibilisation, les mesures d'information et surtout les mesures de référence d'amener très rapidement les cas graves vers les structures de santé. Ça, c'est des actions de sensibilisation aujourd'hui que les agents de santé communautaire sont formés par rapport à ça.
D'accord.
Donc, ils maîtrisent très bien à quel moment il faut faire la référence vers les structures de santé. Mmh. Les vaccins aujourd'hui, c'est vrai, une opportunité, mais les autres actions de sensibilisation, notamment l'assainissement du milieu, l'utilisation des moustiquaires, la salubrité, c'est des actions qui concourent vraiment à compléter la vaccination.
D'accord. Docteur Lee, comment lutter efficacement contre le paludisme?
Ça, c'est une question, je dirais, assez difficile à répondre, hein. On va essayer de le faire. Lutter efficacement contre le paludisme, moi je commencerai par vraiment la question de l'environnement, de notre milieu. Parce que le paludisme est lié à un vecteur. Ce n'est pas seulement les médicaments qui ont fait que le paludisme a disparu, par exemple en Amérique. Le nom même de malaria, c'est fièvre des marais. Malaria, fièvre des marais. Donc, en Europe, ils sont arrivés à éliminer le paludisme par de l'assainissement, en faisant en sorte que le moustique n'ait plus à transmettre le parasite. Donc, la première chose, c'est ça. Mais maintenant, quand les gens tombent malades, il va falloir les soigner. Ce qui était miraculeux, on avait, par exemple, la chloroquine, la quinine, qui soignait. Et donc, on ne s'est même pas intéressé à résoudre les problèmes de transmission par le facteur. On a dit qu'on a un médicament qui soigne bien et on s'est arrêté ça. Mais malheureusement, il y a eu de la résistance par rapport à ces molécules-là. Et c'est ce qui est dangereux. Aujourd'hui, la lutte, elle est très difficile si des résistances continuent à apparaître sur les molécules que nous connaissons et qui sont efficaces. Donc, d'où on doit vraiment axer nos efforts sur la prévention et sur, comment on appelle ça, les questions d'assainissement pour que les rares cas de paludisme qu'on va avoir, qu'on puisse les soigner. Parce que si ça continue comme ça et que le paludisme résiste à tout ce qui est disponible comme arsenal thérapeutique, on aura des problèmes.
D'accord, on aura des problèmes. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau de votre direction pour réduire, en tout cas, le taux du paludisme au Mali?
Bon, merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement du Mali avec l'appui de ses partenaires à travers le programme PALU, en tout cas pour inverser les tendances. Nous avons beaucoup de stratégies de prévention qui sont mises en place. Nous avons la distribution de moustiquaires de façon massive, où chaque 3 ans, on distribue dans tout le Mali des moustiquaires à toute la population. Nous avons aussi les campagnes de chimio-prévention chez les enfants de moins de 5 ans. Il a dit tantôt, les enfants sont ceux qui, en tout cas, supportent le plus lourd tribut de cette maladie. Nous avons aussi la prise en charge. Docteur Lee l'a dit, l'État malien avec l'appui des partenaires met au niveau des formations sanitaires, les hôpitaux, les centres de santé, les médicaments gratuits pour que, en tout cas, les malades qui arrivent soient les moins de 5 ans et les femmes enceintes soient traitées gratuitement. Maintenant, pour le reste de la couche de la population, le traitement quand même est assez abordable financièrement pour permettre aux patients, dès qu'ils arrivent, d'être pris en charge correctement. Mais il a dit, il faut que la sensibilisation soit vraiment assez robuste dans la communauté pour que les gens fassent recours rapidement aux structures de santé dès qu'il y a suspicion de cas de paludisme, pour que la prise en charge se fasse rapidement. Comme ça, ça évite les cas d'évoluer vers la gravité. Et ce sont les cas graves qui partent à la mort. Donc si les cas sont pris en charge rapidement, on évite les cas graves et on réduit le nombre de décès. Donc en gros, c'est cela. Et sous cet arsenal qui existait déjà, on a ajouté cette année la vaccination sur les moins de 5 ans pour le moment. Et après, on verra comment évoluer encore en fonction de la disponibilité des ressources.
D'accord, ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le paludisme. Le vaccin introduit en avril dernier est-il efficace? Et nous étions avec Dr Vincent Sonago, paludologue, conseiller technique et managérial à la direction du programme national de lutte contre le paludisme. Ibrahim Dia Keïta, conseiller technique à la FENASCOM, Fédération nationale des Association de santé communautaire du Mali, et Dr Ousmane Lee, secrétaire à l'organisation et à la communication du collectif pour la promotion de l'éthique et de la déontologie des professionnels de santé. À la présentation, c'était Imran Akilou Maïga. Merci de l'avoir suivi.